pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu trouves ça?
Hirosa sumac.
Sumac.
Ce sont des petits grains, des petites graines de sumac.
Donc cette épice violette, un peu rosée.
Shlemim, ah, Ken, Charleroi.
On va le goûter?
Bah, on va goûter.
Kemo limon.
C'est vraiment comme du citron.
En fait, c'est juste l'épice, ça donne comme si on avait un plat déjà en bouche, en fait. Ça, c'est sroug. C'est très, 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 très piquant. Et c'est du Yémen, donc c'est les juifs yéménites qui l'ont amené avec eux. C'est avec le falafel qu'on le mange, avec le shawarma.
Allez, on trinque. On dit comment? Les haïm.
Les haïm, toujours.
Bonjour à toutes et tous, comment dit-on? Les Chaim, ça va un peu l'accent ou... Oui, bon, chin-chin en hébreu, c'est bien ça. Il est fort probable qu'on parle hébreu et qu'on déguste même israélien aujourd'hui sur le plateau dont on va déguster. Israël, le premier volet d'une série d'été de 6 émissions qu'on consacre aux cuisines du soleil à partir de ce dimanche et jusqu'à la fin du mois de juillet. Nous partirons en Grèce, en Louisiane, en Sardaigne, en Tunisie avec de nombreux reportages sur place. Mais le début de ce périple estival, c'est donc... La Terre Promise, une terre promise aux expériences gastronomiques les plus folles, c'est ce qu'on est allé vérifier dans une ville, prise d'une véritable frénésie culinaire, Tel Aviv, n'est-ce pas Lenora Krief, bonjour.
Bonjour François-Régis, Tel Aviv, la ville insomniaque, je vous emmène faire un tour dans les faubourgs de cette ville à la rencontre du chef Chaim Cohen, avant de retrouver ensuite la star de la cuisine israélienne, Eyal Shani, dans son restaurant Miznon.
Ah ça c'est une star, hein. Miznon, on peut même dire qu'il a une antenne à Paris, dans le Marais, c'est un restaurant absolument époustouflant. Et Eyal Shani qu'on retrouve tout à l'heure avec vous, Lenora Krief. Une fièvre gastronomique s'empare de la Terre Sainte. Seulement voilà, ce jeune pays a-t-il déjà une identité culinaire? En d'autres termes, la cuisine israélienne existe-t-elle? C'est la grande question qu'on va tenter de résoudre avec deux invités. D'abord... Tamir Namias, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes israélien, vous êtes arrivé en France il y a quelques années, 2008 je crois.
Ouais.
Vous avez travaillé dans des brigades prestigieuses quand même. Trois Gros à Roanne, L'Astrance à Paris, bonjour Pascal Barbeau. Frenchy de Grégory Marchand, rue du Nil notamment, parce qu'il y a eu d'autres expériences. Vous vous êtes forgé un répertoire qui mêle, on va dire, technique française, influence orientale. Il y a aussi des saveurs d'enfance, on va voir ça avec vous. Ça donne quoi? Eh bien, ça donne tout ce que vous nous avez apporté. Des assiettes qui débordent, il y en a partout. Un petit mot sur ce que vous nous avez apporté?
Donc, j'ai amené des tzatziki avec de za'atar, des roquettes sauvages.
Ouais.
Ensuite, il y a des fameux hummus.
Hummus.
C'est obligatoire.
On ne peut pas éviter le hummus, évidemment. J'aperçois de l'aubergine aussi.
Ouais. Il y a des aubergines brûlées avec des trinas, des sumacs et des origans. Et juste pour finir, le salé, il y a de bourreka avec de chèvre frais et épinards. Et pour les sucrés, j'ai ramené de babka au halva.
On va voir ce que c'est.
Avec du chocolat.
N'en dites pas trop, il faut réserver des surprises à nos auditeurs. Mais en tout cas, on va se régaler. J'espère qu'on a faim autour de ce plateau. Et j'espère que Claire Bastier a faim. Bonjour.
Bonjour, oui, j'ai très faim.
Journaliste, essayiste, vous êtes diplômée d'un master de géographie de l'alimentation. Vous avez collaboré chez nos amis de France Culture il y a quelques années. Vous vous êtes installée en Israël en...
2014, septembre.
Oh là là. 2014. Et vous avez signé un livre, mais passionnant, je me suis régalé. Il tient à la fois de l'essai, il tient du reportage en immersion, du carnet de recettes, c'est formidable. Et ça s'appelle Chronique culinaire de Jérusalem. La table, miroir des relations entre Israéliens et Palestiniens. Vous vous êtes intéressé à l'éveil gastronomique d'Israël et c'est aux éditions Menu Fretin, une maison qu'on aime beaucoup. Et puis vous avez également signé Jérusalem, un city guide dont on parlera peut-être. C'est un plan avec toutes vos adresses préférée à Jérusalem. Voilà, il sera aussi question dans cette émission d'une autre cuisine fusion, résultat d'un autre mouvement d'immigration. Et c'est notre chroniqueuse Déborah Dupont qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
De quoi s'agit-il?
Alors il s'agit d'une fusion entre l'Asie et l'Amérique du Sud.
Ah.
Donc histoire de sortir un peu de l'aubergine, du pois chiche et du cumin.
Il ne serait pas question d'influence japonaise par hasard?
Et si effectivement, la cuisine Nikkei.
Ouais, c'est absolument passionnant. Vous la décryptez pour nous cette cuisine Nikkei en troisième partie d'émission. La fine équipe dont on va déguster. Michel Biou, Serge Viguier, Nadia Chougui, Djoubaka pour la programmation musicale. Franceinter.fr à la page On va déguster pour les recettes, les adresses de nos invités et le podcast de l'émission. Un voyage culinaire en Terre Sainte, embarquement immédiat.
On va déguster les saveurs de l'été.
Une fois n'est pas coutume, on va commencer cette émission par la fin, par le dessert. Moi j'ai bien envie. Petit exemple pratique d'une recette qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est, Samir?
C'est Damias. Babka.
Babka.
Ouais.
B-A-B-K-A.
Voilà.
Jusque-là, tout va bien.
Tout va bien.
De quoi s'agit-il?
En fait, c'est une recette qui vient de l'Europe de l'Est. Mm-hmm. Et qui, nous, en Israël, on l'a travaillé un peu différent. Et on a farci avec de halva, qui vient de Turquie.
Halva?
Ouais. C'est des pâtes, c'est nougatine de sésame.
C'est le truc qui fait 1300 calories la cuillerée, c'est
ouais,
ça?
Ouais, c'est très très léger.
Donc c'est sésame qui est pilé en quelque sorte avec du sucre, hein, c'est ça?
Avec de, oui, un sirop de sucre avec du miel.
Origine turque?
Origine turque.
D'accord. Ouais. Donc en fait, si j'ai bien compris, et c'est intéressant de commencer par un exemple très pratique, vous empruntez une recette héritée du patrimoine de l'Europe de l'Est.
Ouais.
C'est très, notamment très dégusté, entre guillemets, par les Ashkénazes.
Mmh, exactement.
Et vous l'avez un peu, comment dire, orientalisé, c'est ça?
Un tout petit peu, ouais.
On a le droit de goûter ou pas? Ah, ah bah oui. Si, c'est juste à côté de moi. Alors, petit commentaire autour de ce plateau. Claire Bastier.
Attendez, il faut que je goûte.
Est-ce que vous connaissiez la babka déjà, traditionnelle?
Oui, bien sûr. Traditionnelle, je l'ai goûtée chez des amis dans des familles ashkénazes.
Oui.
Et après, dans les boulangeries ou justement au chouk de Jérusalem, Machane Yehuda.
D'accord.
On en trouve plein.
Donc, et ça, par exemple, ce gâteau, alors qui est légèrement adapté au contexte local, on comprend que c'est un gâteau qui vient d'assez loin, d'Europe de l'Est, qui est encore une fois fusionné avec des saveurs orientales, en l'occurrence le halva, cette fameuse pâte de sésame, sucre et miel. Est-ce que ce genre de fusion, on trouve ça fréquemment dans les assiettes israéliennes?
Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment la cuisine ashkénaze d'Europe de l'Est qui a fusionné avec des accents de la cuisine levantine, locale, c'est-à-dire la cuisine du Moyen-Orient, Syrie, Jordanie, Palestine, Israël et même Égypte.
Mm-hmm.
Et avec des accents venus des communautés juives du Moyen-Orient, les communautés Misrahim.
Mm-hmm.
Et Sfaradim.
Ouh là là, elle va se faire corriger. Ça, je sens que Tamir va rien laisser passer.
Et donc, qui ont ajouté aussi leur... on a ajouté une petite pointe de ces cuisines-là. Donc après, on peut l'avoir aussi dans le sens inverse. On va le voir avec tout ce qui est proposé sur la table. Mais ça peut jouer dans les deux sens.
Est-ce que ce dessert, Tamir Namias, cette babka, c'est pas le résultat aussi de votre propre histoire familiale? Racontez-nous.
Oui, un tout petit peu. Parce que moi, je viens des... deux origines. Je viens d'origine ashkénaze et séfarade. Donc, comme cette recette vient d'Ashkénaze, de l'Europe de l'Est,
oui.
Et mon côté séfarade, on a rajouté de halva et de plein fruits secs à l'intérieur. Donc, ça devient très sucré.
Oui.
Donc, oui, c'est un peu mes origines.
Qu'est-ce que vous en pensez alors, Déborah?
Mais c'est pour décrire aux auditeurs quand même qui ne connaissent pas la babka.
C'est très léger, c'est ça?
Voilà, c'est une sorte de brioche roulée en fait.
Oui.
C'est-à-dire qu'on étale une pâte à brioche, voilà, on rajoute par-dessus une garniture, on roule, ensuite on coupe en deux et on tresse. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il y a vraiment une fusion entre une pâte à brioche classique avec une mie un peu filante et puis cette crème absolument sucrée et délicieuse au milieu. Donc, c'est vraiment une petite douceur qui passe tout seul.
Ça rappelle l'enfance, hein. Et cette crème chocolatée, on la retrouve en Israël, non? C'est pas une crème chocolatée qu'on... Je sais pas, c'est un goût de chocolat que j'ai...
En fait, c'est un goût d'Israël?
Oui.
Non, mais parce que... C'est le halva. Mais on fait beaucoup de mélange de chocolat halva.
Ouais.
Et
parce qu'il y a souvent cette pâte chocolatée dans les desserts en Israël qu'on retrouve. Ouais. Ouais.
Si on remonte, Tamir Namias, votre arbre généalogique, vous l'avez dit, enfin vous avez commencé à le dire. Maman ashkénaze d'origine hongroise, papa issu d'une famille séfarade d'origine égyptienne. Et vous m'avez dit en préparant cette émission, c'est ça qui est intéressant, c'est que votre maman, depuis qu'elle est en Israël, la table familiale s'est transformée, a évolué.
Petit à petit.
Son répertoire culinaire a changé en quelques années.
Exactement.
Racontez-nous.
Ça a pris un peu de temps, mais notre repas de fête, à la base, c'était à côté de ma mère. C'était suivant des kneidalach ou des gefilte fish, des choses qui on se trouve
très ashkénaze.
Très, très ashkénaze. Et ensuite, petit à petit, quand je grandis, c'est devenu plutôt, on avait des aubergines, on avait des dagneaux épicés, et ça a complètement changé.
Ça a complètement changé.
Voilà.
Est-ce que Claire Bastier, pour tenter, puisque c'est un peu l'objectif de cette émission, de définir la cuisine israélienne, on pourrait la réduire à une fusion entre des cuisines juives d'origine très différente, séfarade, ashkénaze?
Je pense qu'on peut parler d'une fusion de ces cuisines ashkénazes et séfarades, même si dans la cuisine israélienne aujourd'hui, on retrouve beaucoup plus d'accent de la cuisine séfarade, donc ces légumes du soleil, l'huile d'olive, beaucoup de couleurs, des épices, qu'il y a beaucoup moins dans la cuisine d'Europe de l'Est ashkénaze.
Mais on retrouve quand même des traces, hein, ashkénazes très concrètes, même dans des plats, comme on l'a vu, qui sont vraiment transformés par la couleur locale.
Oui, tout à fait. Voilà, et qui, en fait, donnent surtout de la couleur. et plus de saveurs. Ensuite, il y a aussi le contexte régional qui influence, parce que on est dans une... Donc toute cette cuisine levantine qu'on a décrite tout à l'heure, en fait, il y a des produits très spécifiques qui sont présents et qui vont être utilisés dans cette cuisine israélienne. On a parlé tout à l'heure du za'atar, qui est donc une épice à base de thym, de sésame.
Ça, c'est un mélange d'épices, hein, c'est ça ?
C'est un mélange d'épices avec du thym séché.
Qu'on trouve aussi hein, dans les pays du Levant, beaucoup en Syrie, énormément au Liban.
C'est pas exactement de thym, c'est vraiment un herbe qui s'appelle za'atar.
Oui, oui, bah, en fait, mais, c'est entre l'hysope, l'origan, ici, le thym. Ouais. Donc,
c'est dans la famille d'origan.
Voilà, exactement.
J'ai vu que vous avez aussi, pour continuer votre propos, que vous avez saupoudré votre houmous de sumac, qui est là encore une épice, on va dire un peu acidulée, hein, c'est ça ? Décrivez-nous le sumac.
Le sumac, en fait, c'est très très acide, ça remplace les citrons limite. Et on utilise ça beaucoup pour assaisonner, pour donner une touche finale pour cette punch acide dans le plat. Donc j'ai rajouté un tout petit peu dans le houmous, comme j'avais pas de citron, donc ça remplaçait.
Donc c'est aussi une cuisine d'emprunt quand même. C'est-à-dire, Israël étant un pays jeune, on emprunte un peu dans son air culturel, géographique, des produits des pays voisins, on les interprète...
À la sauce aussi de la culture locale, ou en tout cas de l'identité. En fait, c'est une cuisine d'influence,
oui.
C'est-à-dire que des produits locaux, vont être utilisés d'une manière totalement créatrice ou innovante. Et par exemple, là à Jérusalem, les amandes vertes que les Palestiniens croquent comme ça, cueillies de l'arbre, en fait, moi, je les ai mangées dans un restaurant israélien où elles avaient été ciselées très finement, mises à mariner dans du citron et après servies sur un poisson blanc, grillé. Donc, quelque chose qu'on ne peut pas voir du tout côté palestinien, par exemple. Donc... c'est vrai qu'il y a ce pas-là.
Est-ce qu'Israël, dans sa recherche identitaire, et on sait évidemment qu'une recherche identitaire culturelle, ça passe forcément par la cuisine, preuve que la cuisine, c'est toujours pareil, c'est beaucoup plus que des recettes. Est-ce que déjà on commence à se définir de façon collective des plats nationaux ?
J'ai fait une petite recherche parce que je pense que c'est compliqué de définir des plats nationaux parce que, comme on a parlé, c'est des choses qui ont amené, c'est les Juifs qui sont arrivés en Israël, des différentes origines, ils ont amené des plats avec eux. Donc, ce qui, moi, je trouvais, ce qui, je me suis dit que ça
Donc, du coup, vous avez dû réfléchir déjà.
Oui, j'ai réfléchi un petit peu.
Parce qu'on pose la question à un Français, très vite, les plats nationaux, ça arrive assez vite au synapse, hein.
Parce que, mais en fait, c'est compliqué. Parce que chaque idée que j'avais, je regardais, je me suis dit, hop, ça vient des Yaman, ou ça vient d'Irak, ou ça vient de...
Ah zut, oui, d'accord. Ouais.
Donc, ce que je trouvais, c'est l'aubergine au trina, c'est quelque chose qui est très israélien.
Alors ça, c'est quand même, on s'arrête juste en une seconde sur ce plat. C'est vrai que ça, on la trouve, pour le coup, à peu près partout. Vous êtes d'accord, Lenora ?
Oui, l'aubergine.
Vous qui avez fait toutes les fêtes de Tel Aviv.
C'est ça. Non, effectivement, l'aubergine.
C'est le légume préféré des Israéliens, je crois.
Racontez-nous cette recette, et même, est-ce qu'on peut la faire à la maison ?
Il est très très facile à réaliser. En fait, il faut brûler un tout petit peu les aubergines avec la peau.
Comment on s'y prend ?
Sur le feu, avec un aluminium ou sans aluminium. Sur le barbecue, c'est mieux encore.
Oui.
Et après, on les pluche et on les marine tout de suite avec de vinaigre de cidre ou vinaigre de vin blanc, citron, jus de citron et d'huile d'olive, sel, poivre. Et c'est tout. C'est le goût d'un peu brûlé qui reste un goût fumé.
Et vous croyez qu'elle est là pour faire de la décoration cette assiette ou pas ? On peut la faire passer par moi, par exemple. Là, je grille bien, toutes les politesses. Je veux absolument goûter. Donc ça, on peut parler effectivement d'un plat national. Ce sont les aubergines. Rappelons juste en un mot ce qu'est. Pardon. Parce que moi, j'ai tendance à dire, je suis allé au Liban, etc. On dit tahiné pour cette crème de sésame. Ouais. La prononciation est différente en Israël.
Trina.
Trina.
Ouais.
Et il s'agit donc d'une crème de sésame.
Ouais. Pâte de sésame.
Pâte de sésame. Ouais. Compliqué à trouver en France ?
Ouais, très compliqué de trouver des bonnes qualités de trina. Et moi, j'ai pas trouvé encore. Je cherche. Chaque fois que je vais à un magazine, à une boutique.
Voilà, et oui, il y a de l'huile d'olive.
C'est une explosion. J'aurais pas pu faire mieux là. C'était un feu d'artifice de l'huile d'olive sur ma chemise, tout simplement. C'est bon.
Merci.
C'est bon parce que c'est à la fois doux, il y a la note noisetée du sésame, il y a le moelleux extraordinaire de ce légume avec ce côté un peu fumé, preuve d'une cuisson à la flamme directe, hein, c'est ça ?
Exactement.
Autre
plat national, moi je me suis dit que c'est les sabir.
De quoi s'agit-il ?
Sabir, c'est quelque chose qu'on mange, c'est un brunch, on peut dire, c'est entre 11h et 14h. C'est assez lourd quand même, mais c'est de pita avec d'aubergines encore une fois. Cette fois, il est frit et des pommes de terre. et de d'œuf.
D'accord.
Des trinas. Et des fois, on rajoute des amba ou des autres épices très, très forts.
Donc là, le sabir, c'est aussi une spécialité qu'on peut trouver un peu partout.
Ouais, c'est un street food, un sort de street food.
C'est ça.
Qui est...
On dit que c'est le falafel à la mode irakienne.
Irakienne, ouais.
C'est ça, d'accord.
C'est un peu plus léger qu'un falafel, ouais. Mais quand même.
Une autre petite spécialité comme ça? Si on pouvait tenter de faire un panthéon des plats nationaux?
C'est de Jerusalem mix.
Oula, de quoi s'agit-il?
Pareil, c'est un sort de street food. Et c'est des abats qui est cuit sur le barbecue.
Ah, vous opinez du chef,
oui,
Pierre,
oui,
ça
fait,
vous parle.
Tout à fait, oui.
De riz de veau, des corps de volaille. Oui. C'est un mix d'abats et qui est servi dans un pita. Et après, il y a différentes garnitures, des salades fraises ou des autres condiments. Et encore une fois, les ambas, c'est un pâte de mangue. Mangue un peu en pickles avec des curcumin, des cumins.
D'accord.
Très épicé.
Très bien.
Très, très bon.
Pierre Bassier, j'ai relevé dans votre livre Chronique culinaire de Jérusalem aux éditions Menu Frottin une très jolie définition de la cuisine israélienne, je peux la citer?
Allez-y.
C'est ce qu'il y a au fond du saladier. Du jus de citron, de l'huile d'olive, de l'eau de légumes coupés, c'est frais, c'est sauvage, ça a du goût. Beaucoup de légumes crus, simplement taillés, avec du jus de citron, c'est aussi ça la cuisine israélienne?
C'est cette fraîcheur en fait qui définit la cuisine israélienne par rapport à une cuisine juive. Ça c'est un chef israélien qui me l'a expliqué ainsi. Les communautés juives qui étaient présentes dans différents pays avaient plus une cuisine de la conservation dans le sens où elles ne savaient pas combien de temps elles allaient rester sur place. Et donc, il y a cette cuisine de pickles, de hamouts, où on conservait en fait dans la saumure les légumes, etc. Et donc en fait, la grande nouveauté de la cuisine israélienne, c'est cette fraîcheur, c'est ces légumes qui vont être coupés plus ou moins grossièrement et mélangés avec une vinaigrette très très simple, huile d'olive, jus de citron, quelques épices. Et oui, c'est ce qui définit cette fraîcheur et qu'on retrouve dans les restaurants aujourd'hui.
Les légumes rois par l'aubergine, qu'on mange en général pas très cru, mais sinon...
L'aubergine, la tomate, il y a beaucoup d'herbes, donc on l'a vu avec la roquette, ou aussi le persil, la nette, il y a vraiment...
Du chou-fleur?
Et du chou-fleur, oui, bien sûr. Oui.
Moi, je dirais vraiment que la cuisine israélienne a réussi à sublimer les légumes. Et d'ailleurs, dans les restaurants, vraiment, il y a des cageots de légumes souvent très apparents. Donc, c'est vraiment, comme dit François Argis, une cuisine de légumes, vraiment.
Cuisine aussi. Très légumière. D'ailleurs, on apprend dans le livre de Claire Bastier qu'il y a beaucoup, le végétarisme et même le véganisme sont des tendances alimentaires très développées en Israël. Je crois même que proportionnellement à la population, c'est le pays le plus végétarien au monde. Preuve qu'on s'intéresse beaucoup aux légumes. On va faire une toute petite pause dans cette émission. On va s'intéresser évidemment à la cuisine israélienne. Juste après, une grande voix d'Israël, Asaf Avidan, The Study on Falling. Bel été sur France Inter.
glow of an implosion that had made no sound. And we're falling back to what we know, to land with both our knees upon the ground. When everything is not enough, and all you know is laying rough, we get going when it's tough.
L'appétit vient en écoutant. On va déguster sur France Inter.
Israël, dans les assiettes ensoleillées dont on va déguster, attachez vos ceintures, on vous emmène dans une ville complètement gastro-hystérique, Tel Aviv.
Vous êtes en train de découper une pita.
Ça, c'est le pita za'atar.
C'est du za'atar qu'il y a dessus.
Oui, c'est très très traditionnel des Jaffa.
Là devant nous, il y a une pita avec du za'atar, une épice, on va dire, plutôt libanaise. On a du houmous devant nous.
C'est de la trina.
Oui, ça c'est la trina.
Huile d'olive, bien sûr.
Vous n'êtes pas comme certains chefs israéliens qui se tournent vers l'international. Vous, au contraire, j'ai l'impression que vous revisitez la cuisine levantine.
Je pense que la globalisation...
La mondialisation, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses à la mondialisation, mais ce qui est mauvais, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait la même nourriture partout. Ça, c'est mauvais. La nourriture a des racines et elle est meilleure à la nourriture de là où elle vient originellement. Donc moi, par exemple, je n'utilise pas de beurre, j'utilise de l'huile à la place, je n'utilise pas de truffe, j'utilise du za'atar, l'épice le za'atar, je n'utilise pas de brioche, j'utilise la pita. Et tout ça parce qu'il y a une identité de la cuisine, une identité de la culture qui est très importante. Maintenant, il est très difficile de dire cuisine israélienne parce que le temps manque. En France, il y a un temps qui rassemble les différentes cuisines alsaciennes, de Provence, de Paris, mais il y a le temps qui les relie toutes, même si elles sont différentes, il y a le temps. En Israël, il va y avoir ce mélange des différentes cultures qui sont arrivées en Israël et qui ont amené leurs différentes cuisines, mais il faut le temps pour cela.
Emmanuel, on va goûter parce que là, ça nous donne trop
oui,
envie.
Oui, oui. Va goûter, va goûter.
Allez, on trinque. On dit comment? Les chaim.
Les chaim, toujours.
Qu'est-ce qu'on trinque à Tel Aviv? Est-ce que vous avez reconnu, Claire Bastier, vous qui vivez depuis quelques années en Israël, la voix de ce chef célèbre?
Mais oui, c'est le célébrissime Chaim Cohen.
Chaim Cohen, vous avez eu la chance de le rencontrer quand même, Lenora Krief.
Et oui, c'est avec le chef Chaim Cohen et Emmanuel que j'ai trinqué au restaurant Yafo Tel Aviv. Emmanuel qui était mon guide et mon traducteur sur place. C'est le fondateur de Happy in Tel Aviv, un des sites tendance les plus en vue de la ville. Mm-hmm. Ce média local, Lifestyle, comme on dit aujourd'hui, propose de faire vivre aux habitants et aux touristes non hébreophones tout ce que Tel Aviv a de plus exceptionnel en matière culturelle.
Et c'est dire s'il y a le choix quand même.
Et on s'est installé au bar avec vue sur les cuisines et un magnifique four qui trône au milieu du restaurant. Chaim Cohen est un juif d'origine kurde. Il a fait ses classes en France avec le chef Roger Verger.
Quand même.
On peut dire qu'il est aujourd'hui considéré comme le père de la nouvelle cuisine israélienne. Alors il s'inspire de la cuisine de sa mère, des traditions familiales, tout en réinterprétant des plats d'origine kurde, turque, irakienne, perse, marocaine. Et comme vous pouvez l'entendre, on s'est régalé. Oh là là, mais cette tomate pelée, avec cette huile d'olive, le za'atar, la pita, le fromage.
Le fromage qui vient du nord, qui vient de la ville de Sfat, dans le nord d'Israël.
C'est magnifique.
Frais. C'est frais.
C'est très frais, c'est très bon. Vous le servez en entrée?
Non, c'est juste pour les clients qu'on aime.
Et alors là, Chaim Cohen, qu'est-ce que c'est? C'est
ça,
magnifique,
c'est
un tartare
méditerranéen en première goutte, s'il vous plaît. הבישול של המזרח התיכון, וויל דוליב, עגבניות, שמן זית, אוברג'ין.
Vous avez mélangé la viande avec l'aubergine?
Oui.
C'est une belle texture, hein?
C'est une magnifique texture, le caviar d'aubergine avec la viande, qui fume la viande en même temps.
בדרך כלל אנחנו משתמשים הרבה בלימון, במידל איסט.
Vous pressez la tomate sur le tartare.
C'est ça.
C'est superbe.
Oui, c'est ça.
Elles sont très juteuses aussi, hein, faut dire.
Très juteuses. Et donc, au lieu d'utiliser du citron, comme d'habitude on le fait dans le Moyen-Orient, eh bien, j'utilise de la tomate et du jus de tomate que je presse au-dessus des plats qui contiennent des goûts de tomate.
On va parler de cette salade aussi, hein.
Tartare de poisson.
Ah, tartare de poisson.
Oui. Et lentilles, oignons, huile d'olive.
qu'est-ce qui rend rosé votre salade?
C'est le sumac, ça c'est le sumac.
C'est le sumac, ça.
C'est tablin shegadel baaretz.
C'est une épice qui pousse ici en Israël.
On va goûter là. Hein.
Oui, on va goûter. Magnifique.
C'est très épicé et très frais à la fois.
Ouais. C'est croustillant par l'oignon. Le poisson est fondant même s'il est cru, mais il fond dans la bouche.
Et d'apparence, il faut dire quand même que c'est plein de couleurs.
Il y a une touche de blanc avec le fromage, il y a le jaune doré de l'huile d'olive. Et c'est vraiment quelque chose à voir et à surtout manger.
On a vraiment la sensation dans les cuisines de Chaim Cohen à Tel Aviv d'un répertoire qui ose tout. Sans tabou, à une créativité débridée, Claire Bassier.
Oui, tout à fait, entre le cru et le cuit, l'acidité ou le côté acidulé du citron ou du jus de tomate, comme il le dit.
Et oui, du jus de tomate, c'est incroyable, de presser comme ça des tomates, comme preuve qu'elles doivent être bonnes quand même. Comme un citron en fait, comme assaisonnement, le jus de tomate pour apporter du fruité, de l'acidité.
Oui, parce que la cuisine en plus locale a ce côté très acidulé qu'on retrouve aussi donc par l'utilisation du citron ou du sumac qu'il cite également.
Et qui a cette note aussi acide.
Tout à fait, oui.
Je rêve d'aller m'attabler chez Chaim Cohen, ça va pas tarder.
Et il faut dire aussi que c'est une cuisine raffinée mais pas maniérée. Ici vraiment on sauce son plat ou l'huile d'olive sans scrupule avec la pita ou la challah, hein, ce pain tressé et brioché traditionnel du Shabbat. Et contrairement à ce qu'on imagine, à Tel Aviv, très rares sont les restaurants qui servent une cuisine cachère.
Abishul sheli ou lo kasher. Ani gadalti bebayit shel ochel rak kasher.
Alors ici ce n'est pas cachère, c'est pas un restaurant cachère. Il faut dire que moi, chez moi, quand j'étais plus jeune, évidemment, ma mère cuisinait uniquement cachère. Donc j'ai été éduqué dans la nourriture cachère. Et un jour, eh bien, j'ai mangé mon premier plat non cachère. C'était un roast beef avec un pain et énormément de beurre sur le pain. Et donc roast beef très saignant, tout ce qui n'est pas cachère, c'est-à-dire la viande et le lait ensemble et le sang dans la viande qui n'était presque pas cuite. Et ça m'a ouvert... la voie a énormément de possibilités parce que je suis tombé amoureux de cette cuisine qui m'a ouvert énormément de portes. Je suis allé en France, dans d'autres pays pour découvrir cette cuisine et l'apprendre. Et quand je suis revenu à la maison, ici en Israël, j'ai décidé de faire reprendre la cuisine évidemment que ma mère faisait, mais de lui influer et de lui donner l'influence du monde entier, de toutes les autres les origines que j'avais pu rencontrer durant mon parcours.
Oh là là! Waouh!
Ok, ça c'est...
Le knafé, alors là on va le décrire parce que là c'est un de vos desserts à vous, c'est une de vos spécialités. Le knafé, la recette, il y a du fromage?
Oui, et du fromage de chèvre. Moi je mélange le fromage de chèvre avec le cottage.
Avec le cottage?
Oui.
Et les cheveux d'ange. Les cheveux d'ange qu'on retrouve donc au-dessus du gâteau.
Exactement. Et au-dessus de ces cheveux d'ange, ma perrotte, ma...
Et tapuchim.
Des pommes.
Des pommes. Good.
Une belle cuillère.
C'est cuillère de...
C'est délicieux, hein.
C'est magnifique.
Non, parce qu'on en trouve partout, du knafé, mais pas comme ça, hein.
Non. Là, le fromage est très fin. Les cheveux d'ange croustillent parfaitement. Et le goût...
C'est pas tout sucré. Pas sucré. C'est bon.
Même si c'est un gâteau qui est assez riche, il garde sa légèreté, là.
הכנפה שאוכלים ברחוב זה עושים אותה בכמויות, היא יושבת המון זמן. Pour faire ça un par un, c'est quasiment artisanal.
En fait, dans les knafés qu'on trouve dans les rues, c'est fait avec en grande quantité. Ça reste souvent dans l'huile, etc. Là, c'est fait un par un, donc c'est vraiment la haute couture du knafé, et donc on fait en sorte que ça soit léger. Ça reste léger.
Quand notre ami chef Tamir Namias a entendu knafé, un large sourire s'est esquissé sur son visage. Vous aimez ça?
J'adore ça.
Définition de knafé. Alors pour ceux de nos auditeurs, il y en a pas mal, j'imagine, derrière leur poste, qui ne connaissent pas
donc,
du tout.
En fait, c'est des feuilles d'ange.
C'est ça.
Kadaïf.
Kadaïf, ça oui.
Donc, farci.
Un peu comme des petits vermicelles, en fait. Hein.
Voilà. Donc les kadaïf farcis avec de fromage de chèvre.
Mais alors c'est sucré.
Et après, sur tout ça, il y a un sirop d'or. Il y a un sirop au miel ou au sucre, après, avec des fleurs d'oranger. Ou pas.
Et lui, il rajoute du jus de rose dans son knafé.
Knafé. Et ça, c'est aussi un dessert qu'on trouve beaucoup en Israël.
Oui, partout.
Et on peut parler d'un plat israélien, encore une fois?
Ah non.
Cuisine d'emprunt, quand tu le tiens. D'accord. Pas tout à fait.
Moi, quand je mangeais des knafés, quand j'étais petit, je viens de Haïfa, c'est une ville qui est très mélangée. Et pour manger des knafés, j'étais obligé d'aller dans le quartier des Palestiniens, des Arabes, dans Haïfa. Et c'est eux qui ont fait des knafés. Et voilà.
Oui, on le retrouve surtout chez les beaucoup chez les Palestiniens aussi. Et certaines villes palestiniennes comme Naplouse, c'est la ville du knafé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très présent.
C'est très, très bon.
Ouais.
Lénora Krief, dans son reportage frénétique à Tel Aviv, soulève une question très importante, kasher ou pas kasher. C'est vrai qu'on a tendance à penser que quand on est en Israël, évidemment, la religion prend de la place. Les interdits religieux, la kashroute, tout ça, ça doit forcément compter dans la façon dont on dresse son assiette, dans les aliments qu'on choisit, dans ce qu'on a le droit de faire et pas faire. Et en même temps, on a l'impression qu'on a affaire à une cuisine totalement libérée, parfois même affranchie de cette dimension rituelle. Qu'en est-il, vous par exemple, Tamir Namias? Alors, vous n'avez pas encore votre restaurant à Paris, mais mon petit doigt me dit que ça va pas tarder à arriver.
Ouais.
Chouette. Kasher ou pas kasher?
Pour moi, pas kasher. J'ai jamais cuisiné kasher. Je viens d'une famille qui est complètement athée, donc même à la maison, j'ai rarement mangé kasher. Mais on peut dire aussi que cette cuisine israélienne, il est beaucoup sur les légumes, peut-être à cause de cette...
Ça réconcilie
mais par exemple, un restaurant, est-ce qu'en Israël, les restaurants sont fermés à Shabbat? On cuisine pas du porc? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a encore des traces quand même de ces règles religieuses.
Ça dépend.
Claire Bassier.
Ça dépend parce que à Jérusalem, oui, il va y avoir des restos fermés pour Shabbat et qui proposent une cuisine cachère.
D'accord.
Après, les restaurants qui préparent cette cuisine israélienne dont on parle, la plupart ne sont pas cachères et cuisinent du porc et vont cuisiner, par exemple, de la viande et des produits laitiers. Alors que c'est une des lois de la kashroute. Donc, ils s'affranchissent complètement de ces règles, de cette nourriture ritualisée.
On peut manger des viandes rouges aussi, excusez-moi de vous couper, mais qui sont très rouges, justement, un peu saignantes, alors que c'est pas dans les règles, là encore une fois, de la Torah, quoi, de la kashroute.
On peut trouver les deux. À Tel Aviv ou à Jérusalem, on peut trouver les deux. Il y a de plus en plus de restaurants kachers, parce qu'il y a de la demande aujourd'hui, mais il y a beaucoup. À Tel Aviv, par exemple, il y a plus de restaurants pas kachers que de restaurants kachers.
D'accord. Bien sûr. Revenons en un mot, Claire Bassier, car vous l'expliquez très bien dans votre essai. Comment s'est opéré ce réveil gastronomique? C'est vrai que vous revenez sur l'histoire d'Israël, les premiers pionniers juifs au début du XXe siècle, ils arrivent avec une vision extrêmement frugale de la cuisine. On est presque dans un mode de vie très, très simple, très rudimentaire.
Très sobre.
On ne mange pas par plaisir, on mange par besoin, etc. Et tout d'un coup, on assiste à une véritable explosion boulimique de nourriture dans des villes comme Tel Aviv. Que s'est-il passé en quelques années ou en quelques décennies?
En quelques décennies, en fait, pour revenir à la création d'Israël et même avant, lorsque les premiers kibboutzniks se sont installés, c'est vrai que comme vous l'avez dit...
Là, vous évoquez les habitants des kibboutz, hein?
Exactement. Donc, qui venaient pour la plupart d'Europe de l'Est, qui se sont installés et qui voulaient vivre du travail de la terre. Donc, il fallait manger les fruits qu'on avait cultivés. Et donc, c'était, une nourriture frugale et surtout pour... montrer aussi que on travaillait et on investissait la terre. Ensuite, après la création de l'État d'Israël, il y a eu toutes ces années d'austérité où justement il y a eu beaucoup de réfugiés qui sont arrivés, les réfugiés d'Europe après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi après les réfugiés des pays arabes.
Là, on n'avait pas la tête à se faire plaisir dans l'assiette.
Non, on était plutôt de l'ordre de la survie.
Ouais.
Que de la nourriture comme plaisir hédonique. Voilà, on ne pouvait pas. Et donc, on s'est mis à cultiver la terre et à continuer. Notamment, c'est là que l'aubergine est apparue comme un des légumes d'Israël.
Ça, vous l'expliquez très bien, d'ailleurs, dans votre livre.
Et là, peu à peu, c'est à partir du tournant libéral des années 70 qu'on s'est mis à sortir, à aller au restaurant et donc à consommer en dehors de la maison. Et c'est là que a commencé à s'élaborer une cuisine du dehors et non plus une cuisine seulement domestique.
Sortir au restaurant, manger à l'extérieur. Vous êtes d'accord ou pas, Tamir Namias? Vous avez vécu en Israël, évidemment, puisque vous n'êtes en France que depuis quelques années. C'est l'apparition de ces classes moyennes en Israël qui ont fait qu'à un moment donné, avec la mondialisation, on a envie aussi d'en profiter, de dépenser de l'argent. C'est presque l'ère capitaliste, quoi.
Je dirais que c'est, bien sûr, c'est ça. C'est le fait que les gens y sortent beaucoup plus. Mais ils sortent aussi plus parce que depuis des années, moi je vais dire des années 90, fin 90, il y avait moins d'attentats terroristes. L'État d'Israël, ils ont vraiment réussi de sécuriser la vie des gens. Et du coup, les restaurateurs...
Ils sortent plus facilement.
Voilà, ils sortent plus facilement parce que les restaurateurs, ils arrivent à garder leur restaurant. Parce que souvent, quand il y a une guerre qui démarre ou un attentat terroriste, c'est le restaurant qui se ferme en premier. Voilà, donc c'est aussi pour ça.
Est-ce qu'il n'y a presque pas une fonction de défouloir dans un contexte quand même un peu oppressant, le risque des attentats, etc.? Est-ce que la cuisine, c'est peut-être un peu de la psychologie de comptoir, mais est-ce que c'est pas un refuge finalement, un défouloir, parce que ça se fait même dans les extrêmes. On voit que vous le montrez très bien, Lenora, les expériences au restaurant sont des spectacles vivants, ça se fait dans une espèce de débordement affectif incroyable, il y a des fusions dans tous les sens, dans l'assiette.
Si, bien sûr, et je pense que c'est pour ça que en fait, le lieu du restaurant contribue à la définition d'une cuisine israélienne, parce que le lieu en lui-même est important et joue un rôle dans la dégustation. Il n'y a pas seulement l'assiette, mais il va y avoir l'ambiance complètement déjantée qu'on peut trouver dans certains établissements, la lumière, la musique, le jeu des chefs et les cuisines ouvertes.
Il y a un
et
show le show. Qui fait...
Et donc les cuisines sont ouvertes, il y a des flammes qui sortent de la, des fourneaux, on va boire un petit verre d'arak entre deux plats, les chefs vont monter sur les tables, taper sur des casseroles, enfin c'est complètement déjanté.
Une expérience à vivre, preuve d'ailleurs, hein, Tel Aviv est devenue véritablement une food destination, comme disent nos amis anglo-saxons, une destination gastronomique, et désormais on peut même se dire que ça devient un levier économique pour Israël. On va désormais à Tel Aviv aussi pour manger, sans forcément avoir d'ailleurs de lien avec le pays. On continue dans un instant à évoquer les saveurs d'Israël avec nos deux invités, Claire Bastier, installée à Jérusalem depuis quelques années, et Tamir Namias, chef israélien installé à Paris.
C'est un acroponiste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un acroponiste, un modeste guitariste, qui n'est jamais dans le ton, à quoi bon. C'est un acroponiste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un acroponiste, un peu trop idéaliste, qui répète sous tous les tons, à quoi bon. C'est un acroponiste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un acroponiste, un drôle de je m'en foutiste, qui dit à tort à raison, à quoi bon. C'est un acroponiste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un acroponiste, qui se fout de tout et persiste à dire je veux bien, mais au fond, à quoi bon. C'est un acroponiste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un acroponiste, qui a pas besoin d'oculiste pour voir la merde du monde, à quoi bon. C'est un acroponiste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un acroponiste, qui me dit le regard triste, toi je t'aime, les autres se sont tous des cons.
On va déguster les saveurs de l'été.
Vous avez compris ce qu'il est en train de dire, parce qu'il râle, hein, là.
Alors oui, il a râlé sur le fait qu'il manque de la cuisson sur les choux-fleurs, qui sont l'un de ses plats phares. Et il explique que c'est un légume vert et non pas un légume blanc, comme on pourrait le penser. Et le cuisinier en question aurait cuit à 1% de moins que ce qu'il faudrait. Attention.
Ah oui, c'est une affaire de précision quand même. 1% en moins de cuisson dans les fourneaux de...
Eyal Shani. Effectivement, c'est très précis. On a poursuivi notre balade gastronomique. Avec Emmanuel, on s'est rendu donc dans les cuisines de Miznon.
Oui.
C'est à Tel Aviv, un des 5 restaurants du célèbre chef Eyal Shani.
Il y en a 5.
5 restaurants.
Ah, quand
ouais.
même.
Il y a Port Saïd, Romano, Le Saloon, Miznon, j'en oublie un, je crois.
On vous mettra de toute façon toutes les adresses sur franceinter.fr à la page On va déguster. Yael Chani, on peut déjà dire qu'il a ouvert Miznon à Paris. oui, rue des Écouffins.
Et qui fait un peu d'ombre au restaurant israélien de la rue des Rosiers.
Oui.
En fait, le concept de ce repère israélien où l'on vient manger à toute heure de la journée, François Régis, est très simple. C'est de revisiter des recettes internationales dans une pita israélienne. Pita bourguignonne, pita fish and chips, pita chou-fleur, pita ratatouille. Selon Yachani,
c'est la fête de la pita.
Tout se mange avec une pita. Voilà,
c'est
la fête
de la pita. Et c'est pas très cher en plus, je crois.
Non, ça reste un petit restaurant très accessible, populaire. Et il faut dire aussi, parce qu'on parle du chef, que c'est un personnage passionné, excessif, limite hurluberlu. Même si c'est une star là-bas, il vient en t-shirt, décontracté, cuisiné, musique à fond dans le restaurant.
Ah oui, là aussi.
Voilà aussi. Il y a juste un bar qui sépare la salle de la cuisine. Et ce soir où j'y étais, bien, j'ai réussi à l'accaparer avec juste quelques minutes à la fin du service.
Irée. הפיתה מאוד שייכת לאזור הזה שלנו. אבל היא התקבעה פה בארץ בצורה מאוד מסוימת.
Alors la pita, c'est évidemment un élément très important de ma cuisine parce que avec la pita, on est comme dans une poche où on va faire entrer des aliments.
מכיוון שזה לחם שהוא בעצם כיס.
Dans une pita, les choses continuent à cuire, peut-être ensemble, à être dans une fusion. Mais c'est une manière aussi d'utiliser un aliment israélien pour faire aussi une rencontre avec les recettes d'origine arabe et les faire en fait se rencontrer dans cet outil gastronomique israélien qui est la pita.
Est-ce que selon vous, la cuisine israélienne aujourd'hui, elle a une identité ?
Alors la cuisine israélienne, elle est marquée par le fait que les Israéliens sont des personnes qui bougent beaucoup, qui n'ont pas de racines spécialement et qui apprennent très très vite. Ici, il y a un sentiment de présent très fort. Il n'y a pas de compte avec le passé et il n'y a pas vraiment de certitude sur l'avenir. Et donc, il y a une envie toujours d'énergie présente, de joie présente. Et c'est ce qu'on retrouve dans la cuisine israélienne, c'est beaucoup de couleurs. Beaucoup de joie, beaucoup de saveurs, et c'est ça aujourd'hui qui fait la différence du fait qu'il y a ce présent qui soit là dans les assiettes.
Tamir Namias, d'accord avec cette définition de la cuisine israélienne par le chef superstar Yael Shani à Tel Aviv ?
Ouais, je suis très d'accord avec ça. Après, il y a des autres techniques où on a parlé le fait qu'il c'est très végétarien.
Oui.
Et donc, les produits qui changent un peu. Il y a aussi tout ce qui est légumes secs qu'on utilise énormément dans cette cuisine. Et qui, je pense que dans les autres pays, on utilise un peu moins. Ben, mais il est basé sur des légumes secs. Il y a cette cuisson extrême, soit très très chaud, genre à 400 degrés. C'est pour ça qu'il y a dans plusieurs restaurants à Tel Aviv, il y a toujours un four ou un barbecue qui est extrêmement chaud.
Flamme directe.
Voilà, donc les légumes entiers. Dans
d'ailleurs, une des spécialités d'Eyal Shani, hein, c'est ce fameux...
C'est le baby chou-fleur, c'est vraiment le chou-fleur servi entier. Voilà, qui a rôti, et c'est vrai qu'il y a juste de l'huile d'olive et du gros sel.
Qui a rôti, du coup, même les parties vertes sont un peu carbonisées, ça a rôti quand même, c'est quoi, 400 degrés quand même.
Oui,
hein.
Oui, c'est ça.
On peut le faire nos fours domestiques ne sont pas aussi forts, mais
à la maison, on peut le blanchir juste un tout petit peu avant.
Et ensuite.
Et ensuite au four.
Oui, j'ai testé, c'est un peu long à faire.
Oui.
En ce moment où il fait un peu chaud, c'est vrai qu'on a une bonne suée, mais franchement, c'est délicieux.
Et bon, on va faire ça à la maison, on est d'accord. Vous parliez quand même de légumes secs, légumineuses.
Ouais.
Un mot sur, là encore, un des plats qu'on trouve énormément partout, à toutes les sauces en Israël, même si le Liban, la Syrie, d'autres pays du Levant revendiquent sa paternité, c'est le
hummus.
Hummus.
Ouais.
Hein, là, on est sur une purée de pois chiches.
Voilà, avec des pâtes de sésame.
Ouais.
C'est très simple à faire. Il faut juste trouver les bons pâtes de sésame, qui est très compliqué des fois, et des bons pois chiches.
Voilà. C'est délicieux. Oh, un hummus, la texture soyeuse, le goût là encore du sésame qu'on distingue bien. C'est un pois chiche de qualité que vous avez fait, j'imagine, tremper toute une nuit.
Voilà, on laisse tremper toute la nuit. Pas trop longtemps, il ne faut pas que ça passe les 12 heures. Et après, il faut l'éplucher un tout petit peu, il faut l'écraser pour enlever la peau.
Peau.
Et tout simplement le cuire à l'eau avec des bicarbonates pour aider un peu.
Ah, et le bicarbonate, ça permet notamment pour éplucher
pour
la cellulose, c'est la membrane de cellulose.
D'accord.
Ça permet de mieux cuire en fait à cœur les légumineuses.
C'est ça. Elvira Masson n'est pas là, dommage. Elle pourrait manger son poids en houmous, elle adore ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous, qu'il y avait des éléments de comparaison sur le houmous, notamment Lenora, vous en avez mangé beaucoup.
Je suis vraiment fan du houmous israélien, mais après je sais qu'il y a une petite guerre du houmous, comme on disait.
Oui, mais alors houmous israélien, Claire Bastien, on n'y comprend plus rien. Il y a un houmous israélien?
Ah oui, il y a une recette particulière.
Telle est la question, mais en effet, en fait... Dans le houmous israélien, moi je suis habituée en fait, si je vais manger un houmous côté israélien, je dirais à Jérusalem, Ça va être par exemple un houmous sabir avec des aubergines, des tomates séchées, des œufs durs. Donc des choses un peu créatives et qui changent du houmous traditionnel. Alors que si je veux vraiment un bon houmous traditionnel, je vais aller en vieille ville de Jérusalem ou je vais aller à Jérusalem-Est. Et pour manger un houmous côté palestinien, délicieux.
Celui de Abu Hassan notamment, non ?
Abu Hassan.
Ouh là là, là ça s'échange les bons plans, d'accord ?
Tout à fait. Et donc, où je vais le manger avec des foules aussi, donc avec des fèves.
Foules, c'est fèves. D'accord.
Arrosé d'huile d'olive, ça c'est vraiment...
Avec la viande hachée.
Avec de la viande hachée, c'est délicieux. Ou avec beaucoup de tahina aussi dessus.
Ouais.
Claire Bassier, vous cuisinez aussi. Il y a d'ailleurs, je tiens à le préciser dans votre livre, ce qui en fait un livre tout à fait complet et panoramique, une dernière partie sur des portraits mais également des recettes, dont une recette que l'on pourra retrouver sur le site internet de l'émission, ainsi que les recettes de Tamir Namias, franceinter.fr à la page On va déguster. Là aussi, il s'agit d'aubergines.
Il s'agit aussi d'aubergines.
Oui, un petit mot.
Et c'est une recette que m'a donnée un monsieur qui a travaillé dans la cuisine et au Shuk Machane Yehuda à Jérusalem pendant des années et des années. Donc
oui.
Ce sont des aubergines braisées. Une salade d'aubergines braisées avec...
Faites passer.
Tout de suite.
Ça passe par la case des Nord à la mer. Alors, excusez-moi, je vous ai coupé.
Et donc, avec des poivrons rouges, des tomates,
oui.
Beaucoup d'ail.
Oui.
Qui est vraiment un des ingrédients rois aussi de cette cuisine-là. Et de l'huile d'olive, jus de citron.
Je goûte. Ah, on distingue effectivement la petite mirepoix de poivron. Ah, on sent la pointe d'ail. C'est bon.
Oui.
La pointe d'ail un peu piquante. Et là encore, on sent le côté fumé.
Tout à fait, oui, boucané presque, oui, de l'aubergine, ouais.
Déborah, vous allez goûter parce que j'adore les chroniqueuses qui parlent la bouche pleine.
Mais moi, c'est surtout l'aubergine brûlée. Moi, c'est mon grand-père qui faisait ça alors qu'il était originaire d'Europe de l'Est, en fait.
Voilà.
Vraiment, c'était le caviar d'aubergine que faisait mon grand-père où il dorait effectivement une aubergine entière sur la flamme du gaz.
C'est ça.
Et moi, c'est un souvenir d'enfance. Donc,
alors, on va voir si vous retrouvez là encore votre madeleine. Allons voir, il y a le croquant aussi là du poivron qui marche très très bien. Tamir, un petit mot. Comment vous l'appelez cette salade ?
Alors, celui qui me l'a donné, Eli Misrahi, lui m'a juste dit salade imratsil. Donc salade de l'aubergine.
Salade
ratsilim. Et donc et en fait, lui c'est une salade qu'il faisait chez lui. Lui il est d'origine kurde irakienne et turque.
Oui.
Et donc il l'a faite ensuite dans son restaurant et c'est pour montrer ce passage aussi de la cuisine de la maison. C'est vraiment un plat que faisait sa grand-mère très couramment. Et quand il a ouvert un restaurant à Jérusalem, il a voulu aussi sortir ce plat, même si après il l'accommodait avec une viande en fonction de son menu.
Très bien. À présent, je vous propose de découvrir également un répertoire culinaire tout à fait explosif, haut en saveur, haut en couleur. Et ça se passe avec notre chroniqueuse Déborah Dupont.
On va déguster.
Nikkei ne serait donc pas qu'un indice boursier ?
Exactement, François-Régis. C'est vrai, quand on a préparé cette émission, la facilité m'aurait conduite en fait à parler du livre Jérusalem de Otto Lenghi.
Ah oui, un petit mot, Otto Lenghi, c'est vrai que...
C'est quand même le livre phare qui fait référence depuis des années sur la cuisine de Jérusalem.
Et qui contribue d'ailleurs à codifier cette cuisine.
Tout à fait, et qui ensuite a été suivi par les livres Plenty et Plenty More, donc qui sont de la cuisine végétarienne. Donc on en parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que je me suis dit... Ça va être quand même un peu redondant, un peu doublon avec les recettes de nos invités, puisque par définition, je serais restée sur la babka, le houmous et toutes les recettes dont on se régale depuis tout à l'heure. Donc j'ai regardé dans les publications récentes, et les éditions Pratt, en fait, ont publié il y a quelques semaines un livre absolument passionnant sur la cuisine Nikkei qui m'a fait découvrir cette immigration en fait massive des Japonais. À la fin de l'ère Meiji, donc 1868, ils ont eu enfin le droit de quitter l'archipel japonais, c'était l'abolition du système féodal, et des centaines de milliers de Japonais sont à ce moment-là partis en Amérique du Sud. Alors à la base, ils espéraient améliorer leurs conditions de vie en quittant ce Japon féodal, encore médiéval, très pauvre. Ils se sont retrouvés quasiment esclaves en fait dans les plantations notamment de café en Amérique du Sud et progressivement donc ils se sont assimilés avec les populations notamment brésiliennes et péruvienne.
C'est essentiellement dans ces deux pays.
Dans
ces
deux pays.
Brésil, Pérou, qu'il y a eu cette immigration japonaise.
Tout à fait. Et donc l'auteur de ce livre s'appelle Louis Hara. Donc
oui.
Lui, il est installé à Londres où il a ouvert en 2012.
Un voyage aujourd'hui.
Ouais, il a ouvert en 2012 donc un restaurant en fait après une formation au Cordon Bleu qui s'appelle le Japanese and Nikkei Super Club. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les premières pages, il raconte toute son histoire. Donc on découvre que son grand-père donc est né de parents japonais à Hawaï, est parti ensuite donc au Brésil. Sa grand-mère, elle, s'est retrouvée à l'âge de 15 ans embarquée sur un bateau pour permettre au bateau de partir du Japon. Elle arrive au Brésil, elle s'y plaît pas du tout, mais finalement, bon, le hasard fait qu'elle rencontre donc cet immigrant donc qui lui était arrivé de Hawaï. Il se marie. Ils ont des enfants qui, eux, commencent à se marier avec des personnes locales. Donc, on arrive à cette fusion. Et c'est là que naît donc ce petit Louis dans les années 70. Et lui, il est élevé par sa grand-mère et sa grande-tante japonaise, donc d'origine.
Ah, intéressant.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on apprend aussi que les Japonais sont arrivés donc avec un régime basé sur le thé matcha.
Oui.
Là, ils découvrent le café, basé sur les poissons, puisqu'à la base, au Japon, on n'avait pas le droit de tuer le bétail. Donc, ils se retrouvent confrontés à une alimentation brésilienne qui utilise énormément la graisse de porc, qui utilise le bœuf séché. Donc, un vrai choc culturel. Et ils apportent, en revanche, des techniques agricoles qui permettent d'améliorer la culture des légumes au Brésil. Et c'est ainsi, par exemple, qu'arrive le cabocha. Donc, cabocha,
ce fameux potiron.
Le potiron japonais, tout à fait, que l'auteur nous propose ici dans une version alors totalement sucrée. Alors, il faut l'avouer, c'est une bombe énergétique. Je vous déconseille de goûter la petite crème toute seule. Prenez-la vraiment avec le potiron, François-Régis.
Je sors mon couteau. Il s'agit donc d'un petit... Alors, c'est une petite courge que vous avez garnie, fourrée en quelque sorte. Elle est coupée en deux et à l'intérieur, on a comme une espèce de crème.
À l'intérieur, on a en fait...
Le légume a l'air bien confit.
Un flan à la noix de coco.
Alors, oh là là. Ah oui,
la recette est très très simple. Vous prenez donc soit effectivement une petite courge japonaise, soit un potimarron. Tout simplement, on arrive dans la saison du potimarron d'ici quelques semaines. Vous coupez quelques centimètres en fait dans le haut du potimarron, vous décalotez en quelque sorte et vous retirez surtout une partie de chair et toutes les graines à l'intérieur.
Oui.
Ensuite, vous retournez le potimarron que vous mettez dans un cuve-vapeur pour le précuire pendant 10 minutes.
D'accord.
Pendant ce temps-là, vous battez des jaunes d'œufs. Alors, j'avoue, il y a 12 jaunes d'œufs dans cette recette.
Ah quand même, ah oui, je me disais c'est riche.
12 jaunes d'œufs.
Non, vous allez goûter hein.
200 grammes de crème de coco, 200 grammes de sucre. Vous battez tout ça, vous faites un petit peu épaissir à la casserole sur un feu doux. Vous farcissez votre courge, vous la remettez cette fois-ci dans le bon sens au cuve-vapeur, 25 minutes de cuisson, une nuit au frais. Et on a donc cette petite douceur qui est quand même vraiment un mélange entre effectivement ces deux saveurs, ce potimarron en fait japonais, donc qui a une texture un peu châtaigne, un peu en plus qui est très confite, et cette crème à la noix de coco qui alors là nous rappelle les desserts d'Amérique du Sud, très très sucrés.
Vous aimez ou pas ?
Ouais, j'adore.
C'est bon, hein.
Bon.
La cuisine Nikkei, c'est vraiment cette idée d'une fusion. Alors, il y a des produits, on peut retrouver également de l'huile de sésame, je crois.
Tout à fait, du miso. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine souvent quand on parle de cuisine fusion. Mm-hmm. C'est vrai que les gens imaginent la pizza à l'ananas, qui est quand même la pire peut-être création culinaire qui puisse exister. Et on se rend compte tant dans la cuisine donc israélienne que dans cette cuisine Nikkei que la fusion peut être faite de manière très intelligente en adaptant des produits, en les modifiant et en utilisant des épices dans des directions qui n'étaient peut-être pas prévues au départ. Et que le but, c'est pas forcément d'opposer deux ingrédients qui vont pas du tout ensemble pour essayer vraiment de dire moi je fais de la fusion. Non, on peut faire des choses très subtiles, très intelligentes et très intéressantes.
Nikkei, traduction, puisque nous on a l'habitude d'entendre ça dans le langage de la bourse en fait, ça veut dire
Alors, Nikkei en fait c'est une abréviation du mot japonais, donc Nikkeijin, j'espère que je le prononce bien, qui signifie tout simplement personne de lignée japonaise.
Très
donc
bien.
C'est une cuisine de lignée japonaise.
Enracinée au Brésil et au Pérou. Pour découvrir ce répertoire culinaire fusionnant et voire même un peu délirant, il y a donc ce livre dont vous nous rappelez les références, Déborah.
Donc, cuisine Nikkei, la cuisine fusion du Japon et de l'Amérique du Sud aux éditions Pratt et qui coûte 25,95€.
Merci beaucoup. Le tourisme a le vent en poupe. Un dernier mot sur Israël, à Jérusalem, à Tel Aviv. Il y a ce livre, un City Guide de Jérusalem, la ville que vous habitez, qui sort avec vos adresses préférées. Allez, votre adresse préférée, ce serait quoi, une ou deux ?
Alors, je dirais Baroud, qui est un restaurant qui propose une cuisine justement juive, séfarade, pour le coup. Donc plus traditionnelle, mais elle est passée d'une cuisine de la maison à une cuisine de restaurant, donc du plat à l'assiette, et qui est un des restaurants qui est ouvert pendant Shabbat.
Et ben voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Une petite adresse comme ça,
petite
à Tel Aviv ?
À Tel Aviv, Mifgash Osher.
Mifgash Osher, ça vous dit quelque chose, Lenora ?
Alors non.
De quoi s'agit-il ?
On raconte des joies, genre voilà.
C'est un restaurant.
C'est là où on va manger des trucs traditionnels, des falafels, des shawarma, des hummus.
Et c'est de bonne qualité.
C'est très très bon qualité.
On va mettre vos plans sur le site internet de l'émission. Merci à tous les deux de nous avoir apporté vos lumières sur la cuisine israélienne. J'espère qu'à la fin de cette émission, on arrive à comprendre un peu plus de quel bois se chauffe. les Israéliens pour cuisiner. Claire Bastier, donc un city guide de Jérusalem, mais aussi ce livre, Chronique culinaire de Jérusalem, la table miroir des relations entre Israéliens et Palestiniens, car il y a cette question, bien entendu, au cœur de votre ouvrage, aux éditions Menu Fretin. Et on attend très impatiemment le restaurant de Tamir Namias, prochainement parisien, dans quelques mois. Dans quelques semaines?
Non, c'est encore
d'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas, la semaine prochaine. Cap sur la Grèce. Lénora va nous emmener dans la région de Kalamata, dans le Péloponnèse. Et nous recevrons avec notre chroniqueuse Elvira Masson, Pierre-Julien Chantios, un pisteur de saveurs qui va nous faire découvrir les saveurs grecques de son enfance. Merci Lénora, merci Déborah.
Merci.
Merci Tamir, merci Claire.
Merci à vous.
Bel été à l'écoute de France Inter. À dimanche prochain. Si vous avez encore faim,